Le journal avec le sommaire de cette nouvelle édition.
La rentrée scolaire est repoussée au 13 septembre. Le gouvernement a donné son feu vert ce matin lors du Conseil des ministres. La mesure concerne la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthes et les zones rouges de Guyane. Par ailleurs, l'état d'urgence sanitaire va être prolongé chez nous jusqu'au 15 novembre. La rentrée universitaire s'annonce elle aussi compliquée. Pour une grande partie du personnel, ce sera télétravail. Et pour les étudiants, cours en distanciel. Objectif, avoir le moins de personnes possible sur ce site. Sur le plan moral et psychologique, les soignants payent un lourd tribut à la crise Covid. Entre les tensions, le rythme effréné des hospitalisations et celui des décès, ils accusent le coup de plus en plus difficilement. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place au CHU. Les plages de Sainte-Anne sont fermées au public. Vous le savez, la municipalité a expliqué qu'elle n'avait pas d'autre choix face au non-respect des mesures par le public. Et puis la situation en Haïti, 10 jours après le séisme. Selon une évaluation préliminaire, les dommages du tremblement de terre s'élèveraient à plus $1 milliard.
Le journal réalisé par André Lefort est présenté par Eric Lefebvre. Bonjour.
Bonjour Jean-Charles, bonjour à tous. Les parents d'élèves, les élus locaux, les syndicats de personnel et même les représentants de l'État, préfets et rectrices, tous réclamaient depuis plusieurs jours le report de la rentrée scolaire au regard de la situation sanitaire. Eh bien, ils ont donc été entendus. La rentrée est reportée au 13 septembre. Et c'est valable pour les Antilles, Guadeloupe et Martinique, donc, mais également pour les îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et pour une partie de la Guyane. L'annonce a été faite tout à l'heure par Gabriel Attal au sortir du Conseil des ministres. On écoute le porte-parole du gouvernement.
En conséquence de ces situations très graves, la rentrée scolaire avait déjà été reportée en Polynésie française. Et il a été décidé ce matin, lors du Conseil de défense, de repousser également la rentrée scolaire au 13 septembre en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, ainsi que dans la partie de la Guyane en zone rouge. Par ailleurs, nous avons décidé de prolonger jusqu'au 15 novembre l'état d'urgence sanitaire aux Antilles, en Guyane et en Polynésie française. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Ce sera le 10e projet de loi relatif à la crise sanitaire depuis le début de cette crise.
Bonjour, Marie-Laure Rambert.
Oui, bonjour.
Vous êtes secrétaire générale adjointe du SPEG, le syndicat des personnels de l'éducation en Guadeloupe. Vous avez été entendue, on peut dire les choses comme ça ?
Oui, on peut dire les choses comme ça. Vous savez, le report de la rentrée, comme annoncé ce matin au 13 septembre, c'est un moindre mal. La proposition la demande en fait de report était unanime, compte tenu de la situation de pandémie en Guadeloupe actuellement. Et nous pensons, au niveau du SPEC, qu'il n'y avait pas d'autre choix.
Pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, entre le 1er et le 13 septembre? Est-ce qu'il faut en profiter pour repenser au protocole sanitaire ou bien est-ce qu'il faut commencer peut-être en distanciel? Comment voyez-vous les choses?
Oui, alors, si nous avons bien compris, hein, il s'agit de la rentrée des élèves, hein, quand on parle du 13 septembre. Maintenant, au SPEC, nous disons qu'il faut qu'au niveau du rectorat, et bien sûr en accord avec les collectivités locales, les maires pour les écoles, les communes, le département pour les collèges et la région pour les lycées, il faut que l'autorité académique propose un calendrier de reprise des personnels en précisant bien sûr les modalités d'accueil des élèves. Mais tout cela doit se faire dans le respect d'un protocole, comme vous l'avez annoncé vous-même, dans le respect d'un protocole sanitaire adapté à la situation sanitaire de la Guadeloupe. Car nous avons constaté que le protocole du ministère de l'Éducation nationale, étalé sur 4 niveaux, ne prenait pas en compte le drame sanitaire dans lequel nous nous trouvons en ce moment en Guadeloupe. Et c'est pour cela que le SPEG a participé au groupe de travail mardi dernier, hier, au rectorat, en présence bien sûr des autres organisations syndicales et des collectivités, pour pouvoir décliner les actions à mettre en œuvre dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un niveau SPEC Guadeloupe. Et pour nous, au SPEC, concernant ce qu'ils appellent dans le protocole les doctrines d'accueil dans un niveau SPEC, l'enseignement ne peut se faire qu'en distanciel. Maintenant, il peut y avoir des aménagements en fonction des situations particulières, mais ça, en tant que professionnels de l'éducation, nous savons le faire. Nous savons le faire. Alors, il est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus les îles du Nord qui ne sont peut-être pas dans la même situation dramatique. N'empêche que pour eux aussi, il va falloir adapter les décisions. Voilà, encore une fois, hein, une singularité de l'Académie de la Guadeloupe. N'empêche, oui, il fallait prévoir un report de la rentrée et maintenant, Maintenant que nous avons cette date de rentrée des élèves, il faut que les travaux pour la mise en place de ce nouveau protocole puissent continuer au niveau du rectorat pour permettre une prise en charge des élèves dans les meilleures conditions possibles.
Marie-Laure Hérambert, hormis le report de la rentrée scolaire, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a également précisé donc que l'état d'urgence sanitaire serait prolongé chez nous, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie française, jusqu'au 15 novembre prochain. Risque de se poser avec la rentrée la question également sensible, Marie-Laure Hérambert, de la vaccination, celle des personnels, celle des enfants, des élèves, la position du SPEG.
Oui, alors de toutes les manières, la position du SPEG n'a pas changé. Alors jusqu'à maintenant, il n'y a pas de passe sanitaire au niveau de l'éducation nationale. Alors quand on nous parle de la vaccination des élèves, nous disons il y va de la responsabilité des familles. Mm-hmm. D'accord ? Donc ce sont les familles à prendre leurs responsabilités en ce sens. Et là encore, si on parle des personnels, comme je vous l'ai dit au début, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de passe sanitaire dans l'éducation nationale. Quand effectivement cela va se poser, eh bien, nous prendrons les dispositions qui s'imposent. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. En tout cas, toutes les mobilisations qui ont eu lieu jusqu'à maintenant contre ce passe sanitaire dans les autres secteurs d'activité, nous avons donné notre point de vue. D'accord ? Nous avons parlé de la liberté des personnels de prendre leurs responsabilités en ce sens. Nous restons à ce jour sous notre position. Mais quand le ministère ou le gouvernement prendra d'autres dispositions, eh bien là aussi, ils vont nous entendre. Et à notre niveau, on prendra nous aussi nos dispositions.
Marie-Laure Hérambert, secrétaire générale adjointe du SPEG, merci d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. À signaler que le préfet tiendra son point presse hebdomadaire sur la situation sanitaire à 17h aujourd'hui et ce sera à suivre bien évidemment sur nos antennes en radio, en télé et sur internet. On parlait de la rentrée scolaire, la rentrée universitaire. L'université des Antilles en tout cas, a tranché. La direction a fait le choix d'une rentrée sur le calendrier initialement arrêté mais en distanciel. Par voie de communiqué, le président lui a informé son administration de la nécessité de mettre en place au maximum le télétravail et d'assurer l'essentiel des cours en distanciel en attendant des jours meilleurs, en quelque sorte, tant en Guadeloupe qu'en Martinique. Christelle Martial.
Le télétravail devient la règle générale pour tous les personnels qui le peuvent. Dans un courrier adressé à son administration, le professeur Jeanqui, président de l'UA, donne des préconisations avant une rentrée universitaire prévue la semaine prochaine. Ainsi, tous les personnels sont invités à travailler de chez eux. Quelques dérogations de présence sur site pourront concerner certains d'entre eux, mais une liste complète devra être établie par les directeurs des différents services. Pour le président de l'université, il est impératif de limiter au maximum le nombre de personnes présentes sur site de façon à éviter toute circulation du virus. Il en va de même pour les étudiants qui suivront leurs cours en distanciel grâce aux nouvelles technologies. La règle est également valable pour les nouveaux étudiants qui devront attendre encore un peu avant de découvrir les amphithéâtres. Quelques places en amphi seront toutefois réservées aux étudiants ne pouvant bénéficier d'équipements informatiques ou numériques. Mais là encore, les UFR et facultés devront établir une liste stricte pour éviter une circulation importante sur le campus. Ce jeudi, les doyens des différents pôles de l'Université des Antilles se réuniront pour affiner les conditions de cette rentrée 2021, une rentrée en distanciel pour la communauté universitaire qui doit tenir compte cette année encore de l'état de saturation des services hospitaliers dans nos régions.
La réalité et les dispositions prises donc pour les campus de Guadeloupe et de Martinique. Martinique, justement, où le confinement et le couvre-feu en vigueur depuis le 30 juillet ont été prolongés de 3 semaines supplémentaires. Ce sera donc jusqu'au 19 septembre inclus. Grégory Gabour, Martinique la première.
Oui, car malgré le léger mieux observé depuis la semaine dernière, le virus continue de circuler activement sur le territoire. 3211 nouveaux cas ont été enregistrés la semaine dernière, chiffre révélé par l'ARS dans son dernier point publié hier après-midi, soit une baisse de 22% en 7 jours. pas assez pour espérer un assouplissement des mesures, car en parallèle, la tension hospitalière reste très forte au CHU avec 539 patients hospitalisés, dont 78 en réanimation. Pire encore, le nombre de décès croît à une vitesse folle, 162 morts rien que sur les 15 derniers jours. Principal responsable, le variant Delta, toujours majoritaire en Martinique selon l'Agence régionale de santé. Il faudra donc patienter encore un peu avant de retrouver un peu de liberté, date fixée par la préfecture le 19 septembre, à moins que la situation s'améliore nettement avant. Une clause de revoyure est prévue dans 2 semaines, indique Stanislas Cazel. On notera enfin que la vaccination progresse. Plus de 22% des plus de 12 ans ont reçu leurs 2 injections. C'est 2,5 points de plus par rapport à la semaine dernière.
Retour en Guadeloupe où une cellule de soutien psychologique a été mise en place au CHU, non pas pour les malades ou leurs proches, mais pour les personnels. Face au stress intense auquel ils sont confrontés depuis des mois, et particulièrement ces dernières semaines, les agents du CHU ont de plus en plus de mal à encaisser. Entre épuisement et angoisse, ils tentent de faire face comme ils peuvent, mais c'est dur. Écoutez le témoignage de ce soignant dont nous avons modifié la voix à sa demande.
Cette pression qu'on ressent au travail, qui est à la fois la pression qui nous vient des patients et une pression entre nous. Entre nous, il y a des pressions et puis on ne peut pas parler de tout. C'est très difficile. Et puis, il y a des prises de position des uns des autres concernant, par exemple, les vaccins, des choses comme ça qu'on a pu prendre sur le plan personnel et qu'on a des fois un petit peu du mal à pouvoir parler de ça. On est déjà un peu à flux tendu habituellement. Et là, se rajoute une quantité qui nous stresse et qui nous met en situation de devoir nous dépasser peut-être, trouver des solutions. Quand déjà le matériel, des fois, ça manque un peu, là, ça va manquer plus. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une solidarité quand même entre nous. Et on arrive à connaître nos collègues sous un jour un peu nouveau, parce que c'est une situation très différente qu'on n'a pas connue. On aimerait pouvoir être écouté en service. Mais on n'est pas sûr de pouvoir être écouté, on a peur d'être jugé. Ça nous fait du bien de parler, peut-être on vide un peu le sac, peut-être.
Personnel soignant et non soignant peuvent donc désormais bénéficier de ce soutien psychologique au sein même du CHU, avec cette cellule mise en place. Un accompagnement qui s'avère plus que nécessaire. Linda Pierre-Justin, psychologue du travail au sein de l'établissement hospitalier.
Depuis que le directeur général a déclenché le plan blanc, on est dans une situation sanitaire très critique. Et effectivement, les soignants, que ce soit les personnels médicaux ou non médicaux, ont besoin encore plus du soutien psychologique que nous représentons déjà au quotidien. Mais la particularité, cette fois, c'est que nous nous déplaçons beaucoup plus dans les services. Nous effectuons des maraudes auprès de ces soignants pour qu'ils n'aient pas, eux, perdent du temps à faire cela. Pour pouvoir écouter un petit peu toutes les problématiques auxquelles ils sont confrontés depuis cette crise. Alors il y a énormément d'angoisse, énormément d'anxiété et de peur liées à la contamination du virus, puisque c'est une situation qui est inédite. Aujourd'hui, différemment de ce qu'ils ont l'habitude de faire, ils sont aussi potentiellement confrontés à cette maladie et ils sont aussi confrontés à beaucoup de décès. Dans les services, l'augmentation du nombre de décès est quelque chose aussi qui sidère. Et donc, ils ont besoin de notre présence pour que les émotions soient contenues et qu'ils ne se laissent pas, en fait, déborder par cette situation.
On reste au CHU, où depuis lundi, le RSMA a envoyé des renforts pour soutenir les équipes de soignants qui, justement, on l'évoquait à l'instant, continuent d'être débordées. Des renforts composés de 2 équipes de 10 jeunes qui se relaient matin et après-midi. Philippe Outier, chef de corps du RSMA, au micro d'Alexandre Houda.
Concrètement, donc, on fait ça depuis 2 jours, depuis lundi. La demande de concours, c'est pour une durée de 3 semaines. Et concrètement, on a 2 équipes qui viennent de 10 personnes qui viennent renforcer le CHU, 10 le matin, 10 l'après-midi. Elles travaillent à 2 niveaux. Tout d'abord, elles aident les équipes médicales à retourner les patients en réanimation 2 fois par jour. Ces patients doivent être retournés. Et ensuite, elle renforce les équipes de brancardage pour tous les mouvements de patients à l'intérieur de l'hôpital. Très clairement, ici, nous ne faisons aucun acte médical. On vient vraiment en aide aux équipes, voilà, pour pousser des branchas, car pour retourner des patients. Ils sont toujours encadrés, binômés avec du personnel soignant. En revanche, ça rentre dans les missions du RSMA. Vous le savez, le RSMA Sa mission principale, c'est l'insertion professionnelle des jeunes Guadeloupéens et des îles du Nord éloignés de l'emploi. Mais aussi, on a une autre mission, la mission d'assistance en cas de crise.
Et puis, toujours au chapitre Covid, sachez que le président de région et son homologue de la collectivité territoriale de Martinique ont écrit au Premier ministre. Harry Chalus et Serge Letchimy signent un courrier commun pour demander à Jean Castex de réviser les aides accordées aux entreprises liées à la quatrième vague de Covid. Les mesures de restriction de la mobilité de la population et des activités économiques ont de lourdes conséquences sur nos économies locales, écrivent-ils. Ils formulent plusieurs propositions d'adaptation des dispositifs existants pour soutenir au mieux les entreprises de nos territoires, dont la révision des critères d'éligibilité au fonds de solidarité ou encore l'allongement de la durée de remboursement du prêt garanti par l'État. Mais alors même où ce courrier était rendu public, le ministre de l'économie Bruno Le Maire affirmait, lui, lors des rencontres du MEDEF, que le gouvernement allait cesser de soutenir l'ensemble des secteurs économiques. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini, a déclaré le ministre. C'est dans une semaine tout juste, mercredi prochain, 1er septembre, que le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe sera officiellement créé. Cette nouvelle structure regroupera les communautés d'agglomération, ainsi que la région et le département. Elle est censée renouveler la gouvernance et répondre enfin à la crise de l'eau. Alors, comment va fonctionner ce futur syndicat? On voit ça avec Éric Bagassien.
Ce nouveau syndicat détient l'ensemble des prérogatives dévolues au service public de l'eau et de l'assainissement dans un objectif de qualité. Le syndicat assure également la gestion technique, patrimoniale et financière et réalise tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement des réseaux. En matière de ressources humaines, la loi prévoit le transfert du personnel de toutes les structures existantes au sein des agglos, du SMO et également des départs volontaires. Sur le plan financier, la gestion des créances est laissée aux EPCI afin d'honorer les dettes fournisseurs. Les travaux de préfiguration sont accompagnés par l'État à hauteur de 30 millions d'euros sur 2021-2022, et cela sur les travaux d'urgence ou les investissements des collectivités pour l'eau potable et l'assainissement. Somme jugée nettement insuffisante. La création le 1er septembre de ce syndicat est attendue comme une première étape pour améliorer la gestion de l'eau en Guadeloupe.
On referme ce journal avec Haïti où, selon une évaluation préliminaire, les dommages du récent tremblement de terre qui a touché la péninsule sud du pays s'élèveraient à plus $1 milliard. 10 jours après le séisme, dans certaines zones sinistrées, l'aide internationale peine toujours à arriver. Et les Haïtiens tentent donc de survivre. Et pour les femmes, sans abri, c'est la double peine, car elles sont confrontées aussi à la menace des agressions sexuelles et des viols. Reportage au CAI, Amélie Baron, RFI.
Nous pas en sécurité là.
On n'est pas en sécurité ici. C'est un terrain public. N'importe qui peut entrer.
Sur le terrain de foot appelé Gabion, Vesta Guerrier vit dans la crainte. Déjà traumatisée par le séisme qui a détruit sa maison, aujourd'hui elle redoute d'être sexuellement agressée.
Oui, nous paie, mais nous obligés
de rester. Oui, on a peur, mais on est obligé de rester ici parce qu'on n'a nulle part où aller. Nos maisons sont détruites. Tout peut nous arriver, je vous le dis, n'importe quel problème. Nous, les filles et les femmes qui sommes sur le terrain, on souffre beaucoup. Quand on se lave, on se couvre le corps et on se rince avec nos vêtements sur nous. On se débrouille pour se laver ainsi. C'est après le coucher du soleil que je me lave. Mais malgré ça, il peut y avoir de la lumière qui se dirige sur moi. Et là, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vit avec nous ici ou si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient faire ce qu'il veut, parce que n'importe qui peut entrer.
Parce qu'il dit son terrain, n'importe qui peut entrer.
Entendant des bribes de son témoignage, deux jeunes hommes qui se disent membres du comité de gestion du camp assurent que Vesta Guerrier se trompe et qu'il y a de la sécurité. Mais loin de ces dirigeants autodéclarés, plusieurs femmes sinistrées du terrain Gabion témoignent de cette même peur d'être violées ou agressées. Amélie Baron, Les Cailles, RFI.
13h20, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à 18h pour l'essentiel de l'actualité locale et régionale.